La pensée de Maurice Zundel sur l'homme véritable et la nouvelle naissance. Voici une conférence de Michel Fromager, anthropologue et maître de conférences à l'université de Caen. Conférence enregistrée à l'abbaye de Belloc le 29 septembre 2012. La pensée de Maurice Zundel sur l'homme véritable et la nouvelle naissance. Michel Fromager.
Qui est cet homme? Eh bien, il a passé les trois quarts de sa vie en exil. À Paris, Londres, Beyrouth, Jérusalem, Le Caire. Il a prononcé plusieurs milliers de sermons, discours, conférences, causeries. Il a prêché des centaines de retraites, ceci quasi toujours sans le secours de la moindre note. C'est un cerveau extraordinaire. D'une nature extrêmement curieuse et recherchant inlassablement la vérité en toutes choses, il était très au fait des grandes avancées de la science de son temps, qu'il s'agisse de physique, de biologie ou de psychologie notamment. Vous voyez l'homme. Grand connaisseur des langues anciennes, il maîtrisait si bien l'hébreu que ses traductions des psaumes émerveillaient même les plus exigeants. L'arabe lui était devenu si familier que sa traduction du Coran passait à beaucoup d'égards pour meilleure que certaines dues à des professionnels de langues orientales. Je n'invente rien, je ne grossis pas. Sa pénétration de l'assyrien, du syriaque, du copte, n'était peut-être pas parfaite, mais elle était telle que la compréhension de ces langues ne lui posait guère de problème. Zundel dormait en moyenne 3 heures par nuit. Comme on sait, et comme vous savez sans doute, la diminution du besoin de sommeil, qui peut parfois aller jusqu'à l'agrypnie, ou absence totale de sommeil, eh bien c'est là en fait un trait significatif et courant chez les âmes mystiques. En outre, Zundel, par esprit d'humilité, ne se nourrissait que de quelques pommes de terre par jour, ce qui ne rendait pas la chose facile pour les gens qui voulaient le recevoir correctement. Eh bien là, vous voyez, nous ne sommes pas loin non plus de ce que l'on appelle l'inédit, hein, cette faculté de vivre sans manger dont a été gratifié notamment Marthe Robin. Et quelques confidences sûres l'ont affirmé, il semblerait que Zundel bénéficiait parfois de ces grâces extraordinaires qui n'échoua qu'aux âmes saintes, mais là, ce sont peut-être des rumeurs et il n'est peut-être pas très intéressant de le développer. En fait, qui lit Zundel comprend bien vite qu'après lui, ni l'homme, ni Dieu ne se peuvent comprendre comme avant. En fait, bien comprendre Zundel demande un bouleversement conceptuel, demande vraiment une métanoïa que nous parvenions à penser les choses autrement. Si nous n'arrivons pas à faire le sacrifice de notre façon de penser, nous ne pénétrerons pas Zundel. Et d'ailleurs, nous ne pénétrons pas l'Évangile non plus. C'est une même chose. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres publiés de son vivant, d'une quinzaine d'œuvres posthumes, et je ne compte pas loin, au moins, et ça augmente tous les jours, d'une trentaine d'ouvrages de langue française sur Maurice Zundel. Pourtant, Zundel demeure de nos jours encore mal connu. Et sans doute, n'est-ce pas pour rien? Parce qu'en fait, vous allez le voir et le comprendre, sa conception de l'homme ne fait pas grand cas de l'homme moderne, pas grand cas de celui que nous sommes devenus. Vous verrez comment il le traite. Et elle nous démontre que le plus souvent, nous sommes inexistants. Or ça, on n'aime pas qu'on nous démontre ça, évidemment. Assez réticent. Et il est sûr que sa théologie ne passe pas très facilement non plus auprès au moins d'un certain public, puisque vous le verrez, c'est une théologie qui se joue du dieu des catéchismes en dévoilant ses archaïsmes et ses travers absolument intolérables. Et c'est toujours vrai. Oui, Zundel est de nos jours encore méconnu, et à l'heure où les fidèles désertent les églises et où le dialogue entre les grandes religions demeure encore si difficile, c'est à mon sens un immense dommage, car la spiritualité de Zundel, tout à la fois étincelante, vous allez voir, et d'une liberté inouïe, qui toujours affirme le primat, la priorité de l'expérience sur le dogme, la priorité de l'intériorité sur l'extériorité, eh bien cette spiritualité, à mon sens, l'une des très rares de notre temps, si ce n'est peut-être la seule, à pouvoir redonner au christianisme actuel le sens du mystère qu'en fait il semblerait qu'il ait perdu. Et Zundel ne se faisait pas faute. Lors notamment de la dernière retraite de carême qu'il a prêché au Vatican, il ne s'est pas fait faute de le dire au grand dignitaire de l'Église, savoir qu'il avait perdu le sens du mystère et que c'était ça qu'il fallait retrouver. Alors l'objet de mon propos aujourd'hui va être modeste, donc il est de vous permettre de mieux situer Zundel, de vous introduire d'une part à sa vision de Dieu, d'autre part à sa vision de l'homme, ceci tout en accordant donc une importance particulière à deux thèmes fondamentaux donc de sa pensée qui sont le thème de la nouvelle naissance est le thème indissociable, consubstantiel, qui est celui de l'homme qui est accouché par cette nouvelle naissance, l'homme véritable. Qu'est-ce qu'un homme avec un H majuscule ? Voilà. Alors mon exposé va se découper suivant ce canevas-là. Première partie, une biographie. Deuxième partie, la théologie, un aperçu sur la théologie de Zendel, comment il voyait Dieu. Troisièmement, comment il voyait l'homme. Et quatrièmement, on va approfondir un peu la notion donc, de nouvelle naissance. Voilà. Alors on est fondé à distinguer dans la vie du grand prédicateur, à mon sens au moins, trois périodes principales. Je dirais la période de jeunesse, de 1897 à 1925, la période d'exil, de 1925 à 1946, et enfin, celle de la prédication itinérante, qui est la plus longue, de 1946 à 1975, qui a presque duré donc 30 ans, vous voyez, jusqu'à sa mort en 1975. Alors, la jeunesse de Maurice Zendel. Zendel est né à Neuchâtel, en Suisse, c'est un Suisse, le 21 janvier 1897. Il est le troisième enfant d'une famille de quatre. Ses parents sont catholiques pratiquants, mais disons sans élan spirituel particulier. Et le jeune Maurice héritera en fait de tels élans de sa grand-mère. De sa grand-mère maternelle, mais qui, elle, est protestante. À l'école de Neuchâtel, Zendel est le camarade de Jean Piaget, que certains d'entre vous peut-être connaissent, le grand épistémologue, le spécialiste de psychologie génétique, une des plus grosses pointures scientifiques en matière de psychologie du siècle passé. Avec Piaget, il découvre les sciences naturelles et déjà à cet âge, ils ont 13-14 ans, il se montre extrêmement exigeant, extrêmement averti, extrêmement connaisseur déjà de la biologie et des matières connexes. Peu avant sa 15e année, le 8 décembre 1911, dans l'église de Neuchâtel, alors qu'il est en prière devant une statue de Notre-Dame de Lourdes, c'est pas n'importe laquelle, Zendel vit ou vécut sa première grande expérience spirituelle. Donc, à un âge, il n'a pas encore 15 ans, il est jeune. Voici ce qu'il nous rapporte. Il ressent quelque chose d'intraduisible, une grâce mystérieuse, une présence, une sorte d'appel urgent, instantané, rien de visible, mais quelque chose d'intérieur qui ne souffrait aucune résistance. Il introduit effectivement cette expérience comme ceci. Je ne donne pas tout le détail. À la faveur de cette heure étoilée, ainsi que la nommera Zendel en reprenant une expression de Stefan Zweig, il découvre tout à la fois, je dirais, l'exigence de la pureté et de la chasteté, mais non seulement sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique, sur le plan de la pensée. Il découvre l'importance du recueillement et du silence. La pureté dont il est question, c'est celle du silence, quant à l'essentiel. Toute condition indispensable à la naissance du Christ dans les profondeurs de l'âme. Et ça, il semble que ça a été donné à Zendel alors qu'il n'avait pas 15 ans. C'est quand même extraordinaire. Et comme souvent dans ces cas-là, sa vie se passera à exploiter en quelque sorte ses intuitions premières qu'il a eues à ce moment-là. Ainsi, avant même l'âge de 15 ans, Zendel avait déjà aperçu toute l'importance du dépouillement total, toute la fécondité de cette absence à soi qu'il nommera plus tard le vide créateur et dont il nous parlera si bien. De 1913 à 1915, Zendel passe 2 ans au collège de l'abbaye bénédictine d'Ansiedeln. Là, il vécut d'autres instants étoilés à la faveur desquels Dieu se révéla à lui comme amour et beauté, silence et pauvreté. Disons, son expérience mystique s'approfondit pendant ces 2 années. Puis, il va faire cette fois ses études de théologie. Il rentre au grand séminaire, mais à Fribourg. Alors, cette période, donc, de 1916 à 1919, puisqu'il se destine à la prêtrise, donc il va au grand séminaire, cette période fut pour lui particulièrement éprouvante. Le Dieu des dogmes et de la scolastique qui est enseigné à Fribourg, disons, pour faire vite, le Dieu de saint Thomas, n'avait que peu à voir avec le Dieu intérieur qui illuminait déjà la vie de ce jeune homme. Zendel aimait à dire que Dieu n'est pas une invention, on verra ce qu'il en dit après. On n'a pas affaire à un Dieu enfermé dans les mots, à un Dieu qui se démontre. Ce Dieu-là, il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Et c'est celui-là qui lui était enseigné à Fribourg. Zendel disait, Dieu n'est pas une invention, mais une découverte. Pour lui, certainement, la théologie ne naît pas dans des mots, mais à la faveur d'une expérience. Il le disait déjà à l'époque, il le redisait, et il était déjà, bien sûr, très mal vu des esprits de système qui dominaient, effectivement, dans ce grand séminaire de Fribourg. Donc, avant même d'être prêtre, il était déjà un petit peu sur la touche. En 1919, il est ordonné prêtre à Fribourg et, peu de temps après, la plus grande paroisse de Genève lui est alors confiée. Charge importante, Mais Zundel gère les choses à sa manière. Aux enfants, eh bien, il préfère enseigner Dieu à travers les beautés de la nature et les vérités scientifiques plutôt que de leur faire réciter par cœur le catéchisme. On est en 1919-1920. Hein. Aux jeunes gens, ils n'hésitent pas à parler d'éducation sexuelle. Et comme le sexe intéresse les jeunes gens, ils en parlent beaucoup. Alors, évidemment, ça passait pas trop. Et bien vite, il apparaît aux yeux de son évêque que Zundel est un électron libre et il lui apparaît comme étant un véritable franc-tireur. Or, ainsi que le disait cet évêque sans gentillesse, l'Église n'aime pas beaucoup les francs-tireurs. Et voilà que commence la deuxième période de la vie de Zundel. En exil. Hop. Et puis pour bien lui faire comprendre qu'il n'avait rien compris, première mesure, mesure vexatoire, on envoie Zundel donc à Rome pour y refaire sa théologie. On l'envoie là-bas pour ça. Nous sommes en 1925. Il y soutiendra sa thèse de doctorat, l'influence du nominalisme sur la pensée chrétienne, donc, disons, l'influence du thomisme sur l'histoire donc, de la pensée chrétienne après saint Thomas. En gros, c'est ça. Ce n'est pas, je l'ai lu, ce n'est pas une thèse excellente, ça c'est autre chose. Puis c'était des thèses qui se faisaient assez rapidement à l'époque. C'est un petit travail qui me demanderait d'être amplement approfondi. Enfin bon, peu importe, on lui fait refaire donc ses études. Ensuite, il est envoyé à Paris en 1927, où il se morfond quelque temps, avant de devenir aumônier du fameux couvent dont vous avez peut-être entendu parler, des bénédictines de la rue Monsieur. Comme on sait, ou comme on ne sait pas, étaient célébrés dans cette église, dans l'église de ce couvent, des offices et des messes d'une telle intensité spirituelle, en fait, d'une telle beauté, que la plupart de ceux qui y assistèrent, qui eurent le bonheur d'y assister, eh bien, ces gens-là en restèrent marqués pour la vie. Et c'était des grandes pointures de l'époque qui y allaient dans l'entre-deux-guerres. Je pense à Huysmans, je pense à Maritain, je pense à Rivière, je pense à bon, etc. Mauriac y allait, enfin bon, le gratin en quelque sorte du catholicisme de l'époque y allait. Et tout le monde est unanime, effectivement. D'ailleurs, à ce sujet, Zundel nous disait aussi que le silence là-bas, le silence était aussi mystérieux et présent qu'une personne vivante. Et la pureté inoubliable des voix démoniales, ainsi que la virtuosité de leur chant grégorien, étaient pour beaucoup, effectivement, dans ce que découvraient ces grands esprits là-bas. Et Zundel restera aumônier donc, de la rue Monsieur de 1927 à 1929. Il va nouer là des amitiés fécondes et durables, alors notamment avec l'abbé Montigny, qui deviendra Paul VI, avec l'orientaliste Louis Massignon, de grands esprits aussi de l'époque, le critique Charles Dubos et d'autres. De cette époque date la découverte par Zundel de la spiritualité de François d'Assise. Et cette découverte fut vécue par lui aussi comme l'une des plus importantes de sa vie. Et elle le confirmera définitivement dans sa compréhension de Dieu, saisie comme suprême pauvreté. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Dieu n'a rien. C'est pour ça qu'il se donne tout entier. Ensuite, la vie errante de Zundel le conduit à Londres en 1930, où il apprend l'anglais très rapidement, bien sûr, tout en découvrant l'œuvre de Newman et l'existence des anglo-catholiques. Nous sommes donc en 1930. De 30 à 33, il revient en Suisse. Il était très heureux de revenir en Suisse. Il ambitionnait d'avoir à nouveau une paroisse, parce qu'il était fait, comme pensait-il, tout au moins, pour être curé de paroisse. Hein, c'était sa vocation. Il revient donc en Suisse, mais la hiérarchie qui a la mémoire longue lui refuse d'animer quelque paroisse que ce soit. Et Zundel est obligé d'accepter d'être l'aumônier d'un pensionnat, ce qui le réjouissait effectivement beaucoup moins. Et en 1933, il revient en France, où il sera aussi aumônier d'un pensionnat de jeunes filles à Neuilly, ceci jusqu'en 1937. Donc de 1933 à 1937, pendant 7 ans, Zundel est aumônier dans des pensionnats, que ce soit en Suisse donc, ou en France. En 1938, il passe 1 an à l'école biblique de Jérusalem, où il apprend les langues testamentaires à un rythme surprenant, mais grâce aussi, bien sûr, à un travail acharné. Zundel se lève à 3h du matin et est capable de travailler 20 heures par jour, c'est extraordinaire. En 1939, il est de retour à Neuilly et il publie alors son ouvrage « Recherche de la personne », premier ouvrage, premier essai de réflexion important, qui est rapidement retiré du commerce par ordre de son évêque. Avant son séjour à Jérusalem, étaient déjà parus 2 livres de sa main, 2 livres qui étaient remarqués, je dirais, par les milieux catholiques, qui sont le poème de la Sainte Liturgie et l'Évangile intérieur. Et la guerre arrive. En 1939, la guerre et les périodes difficiles donc se profilent à l'horizon, et en 1939, sur le conseil et la recommandation de Massignon, donc le célèbre orientaliste dont il a fait connaissance rue Monsieur, qui est conscient de la valeur spirituelle immense de Zindel, eh bien Zindel arrive au Caire. Il y est reçu par Marie Cahill, qui est une grande amie de Massignon, et qui se dévoue là-bas pour organiser des rencontres et des conférences destinées aux intellectuels musulmans ouverts au christianisme. Grâce à Marie Cahill, Zindel devient l'aumônier des carmélites du couvent de Matarié, qui est situé dans la banlieue nord-est donc du Caire. Et Zindel, un peu contre son gré, parce qu'il serait bien rentré avant, mais ça ne s'est pas avéré possible, est resté donc au Caire jusqu'en 1946, jusqu'après la guerre. L'étude approfondie de l'islam dans sa pratique, comme dans ses textes, lui en découvre les principaux arcanes, mais devant l'islam, l'aumônier de Matarié restera partagé entre l'émerveillement et l'effroi. Et l'effroi. Au Caire, comme ailleurs, Zindel ne ménage pas son temps. Au centre de Dar es Salaam, il ne donna pas moins de 110 conférences devant un auditoire absolument subjugué. Et par les thèmes qu'il abordait, la façon dont il en parlait et le personnage qu'il était, bien sûr. Troisième période, donc, de la vie de Zindel, il peut rentrer en France, enfin en Europe, et en 1946, il revient en Suisse. Mais, même topo, il n'a pas de charge de paroisse immédiatement au moins, et pendant une trentaine d'années, il va mener une vie de prédicateur itinérant qui va le conduire donc à Genève, Lausanne, Paris, Londres, Le Caire et Beyrouth, notamment. Il va alors prêcher d'innombrables retraites et recollections, prononcer une multitude de conférences, d'homélies, d'entretiens. Donnant tout ce qu'il possède aux pauvres, il accorde aussi beaucoup de son temps à la direction spirituelle, démoniale, donc appartenant au couvent dont il est évidemment l'aumônier. Il écrit aussi en ce temps-là nombre d'ouvrages dont parmi les plus importants, voici, il y a « Croyez-vous en l'homme » qui date de 1956, Morale et mystique, qui date de 62, L'homme existe-t-il, qui date de 67, et enfin, un des plus connus, qui est Je et un autre, qui date de 71, et qui est un ouvrage d'un intérêt exceptionnel. En 1972, Paul VI, qui avait pour idée de nommer Zindel cardinal, ça l'aurait tué, mais qui fut heureusement détourné de ce projet par le révérend père Carré. Mais Paul VI voulait gratifier Zindel, il avait beaucoup d'amitié pour Zindel, il voulait le récompenser pour son œuvre qu'il connaissait bien. Donc le nommé cardinal, on l'en a dissuadé, mais le révérend père Carré lui dit que Zindel serait peut-être très honoré de venir prêcher donc la grande retraite de carême de l'époque, donc nous sommes en 72. Paul VI invite Zindel et Zindel, après quelques petites hésitations, accepte. Donc il invite Paul VI, il lui fait l'immense honneur à Zindel, de prêcher cette retraite de carême. Et il invite le petit abbé suisse, inconnu de tous, à prêcher cette grande retraite, donc, devant l'auditoire religieux, le plus prestigieux, évidemment, que l'on puisse imaginer, puisque tous les cardinaux sont là. Après hésitation, donc, Zindel accepte l'invitation. Et c'est ainsi qu'il va prêcher devant la curie romaine, extrêmement attentive, vous vous en doutez, 22 méditations prononcées sans une seule note. À l'issue de cette retraite, le pape lui donna même, devant les cardinaux, une allocution fervente dans laquelle chacun des auditeurs comprit très vite qu'il fallait voir une consécration officielle de la pensée de Maurice Zindel. Ce n'était pas rien. Mais cette consécration était bien tardive. Début 75, Zindel est atteint d'une embolie cérébrale qui le rend hémiplégique et aphasique. Il meurt le 10 août de la même année. Beaucoup de ceux qui connurent Zindel sont convaincus qu'il était un saint. Je leur laisse la responsabilité de cette appréciation, mais qui est intéressante. On a dit, et son médecin, non sans raison, que Zindel est mort aussi de cette retraite donc au Vatican, parce que le pape, la curie, lui a demandé après de rédiger ce travail pour en faire un ouvrage. Il s'est attelé à la tâche et il semblerait que, il était déjà très âgé et sans doute peut-être fatigué, il semblerait que cette tâche l'ait littéralement épuisé. D'autant plus qu'il prenait très peu de notes, donc ça a été réécrire un gros ouvrage. Alors cet ouvrage existe, hein, il s'appelle « Quel homme, quel dieu », vous pouvez le trouver, on le trouve dans le commerce maintenant. Et d'ailleurs, ironie du sort, mais enfin on pouvait s'en douter, quand on vérifie, le texte qui vous est proposé, qui a été revu et relu par le Vatican, n'est pas exactement, évidemment, ce qu'a dit Zindel. Bon, quand on a les enregistrements originaux, on voit qu'il y a quelques différences. Cependant, rassurez-vous, je ne vais pas enfoncer le clou parce que les reprises me semblent quand même assez mineures, quant au fond. Ça aurait pu être bien pire. Voilà. Donc voilà, hein, je vous ai situé à peu près le bonhomme. Maintenant, disons un mot de la manière dont il voyait Dieu, dont il concevait Dieu, donc le Dieu chrétien dont il avait eu la révélation. Alors je dirais que le Dieu de Zindel, sans l'ombre d'un doute, sans le moindre doute est celui de Jésus-Christ. D'ailleurs, plus j'approfondis Zindel, plus je m'appelle. Celui de Jésus-Christ, c'est celui de l'Évangile. Hein. Il n'y a aucun doute, et du Nouveau Testament, il n'y a aucun doute à voir là-dessus. Mais pour autant, ce Dieu est-il bien celui des prêtres et des fidèles d'aujourd'hui? Ça, ce n'est peut-être pas certain. En effet, le Dieu de Zindel est un Dieu proche infiniment. C'est un Dieu qui ne s'impose pas, qui ne contraint pas, qui ne juge pas, qui ne châtie pas. Ce Dieu est un Dieu intérieur et un Dieu souffrant. Raison pour laquelle Zindel aimait redire la grande intuition de Nietzsche, qui avait dit, Nietzsche avait aussi des intuitions fulgurantes, bien qu'il se soit quand même fourvoyé pour l'essentiel, il disait, « La religion du Christ est la religion d'un Dieu souffrant et voilé. » Afin que chacun puisse se faire le plus simplement possible aujourd'hui une juste idée de cette théologie qui est celle de Zindel, j'ai recensé, disons, 7 traits particuliers qui dessinent le visage du Dieu de Maurice Zindel, me semble-t-il, de façon assez précise et assez fidèle. Ce Dieu est un Dieu intérieur, nous allons revenir là-dessus, innocent, souffrant, aimant, pauvre, fragile, et je dirais, c'est moi qui emploie ce terme, Zindel ne l'employait pas, mais ça correspond à quelque chose de très précis, c'est un Dieu constatable, un Dieu expérimentable, expérientiel, un Dieu que l'on peut éprouver. Enfin, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Un mot sur chacun de ces traits, donc, qui dessine pour nous le visage donc, du Dieu de Maurice Zindel, qui est le Dieu de l'Évangile. À propos du Dieu intérieur, dans son livre « Je est un autre », Zindel fait cette remarque qui mériterait de figurer en exergue de tous les traités d'histoire de religion. Il nous dit ceci. « Tant que l'homme demeure extérieur à lui-même, il situe Dieu en dehors de soi. À mesure qu'il s'intériorise, qu'il prend conscience de son intériorité, Dieu lui devient toujours plus intérieur. » Et Zindel assoit sa conception intérieure de Dieu sur différents passages de l'Évangile, notamment de l'Évangile de Jean. Ainsi, par exemple, sur la scène du lavement des pieds, où on voit Jésus se mettre à genoux devant ses disciples, à genoux devant l'homme. Et Zindel, de bien comprendre la scène, si le Christ, si Dieu se met à genoux devant l'homme, c'est que en l'homme il y a Dieu, bien sûr. Il assoit donc aussi sa conception de Dieu intérieur sur le dialogue avec la Samaritaine, notamment, hein, où Jésus dit qu'il faut prier Dieu en esprit et en vérité. Bon, je ne vais pas développer toute l'argumentation qui ne nous intéresse pas spécialement ici, mais le Dieu donc de Zindel est un Dieu intérieur. Et constatant que les trois personnes divines sont toutes esprits, Zindel en conclut que Dieu est un pur dedans. Hein, c'est son expression. Cette intériorité divine est pour Zindel un immense soulagement. Il écrit « Jésus, en nous révélant la Trinité, nous a délivrés de Dieu. » Ah oui, ça, cette phrase est extraordinaire. Jésus-Christ nous a délivrés de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il précise, il nous a délivrés du Dieu cauchemar, extérieur à nous, limite et menace pour nous. Ce Dieu-là, c'est celui de l'Ancien Testament. Nous y reviendrons. Eh bien, un apport du Christ, c'est que ce Dieu-là, effectivement, on le dépasse. Zindel veut dire ici que le Dieu unique et trinitaire du Nouveau Testament nous délivre du Dieu unique et solitaire. Et on verra ce qu'il dit de ce Dieu solitaire qui est le Dieu aussi de l'islam. Du Dieu unique et solitaire de l'Ancien Testament. Il nous dit que le Dieu intérieur de Jésus-Christ nous délivre du Dieu logé derrière les étoiles, du Dieu extérieur et en ce sens du Dieu objet, hein, que l'on saisit à l'extérieur de soi-même, du Dieu objet des prophètes de l'Ancien Testament. De manière pittoresque, Zendel dira encore du Dieu de Jésus-Christ qu'il est l'anti-pharaon, l'anti-narcisse. Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu pharaon. C'est aussi le Dieu narcisse qui ne se préoccupe que de lui-même, mais on verra cela de façon un petit peu plus approfondie tout à l'heure. Car le Dieu solitaire, théophanique et biblique, dont le Dieu de Jésus nous libère et dont il libère l'humanité à jamais, n'est autre que ce Dieu que Zendel peint ainsi. Et ce Dieu lui fait horreur. Il dit, et je prends un des tableaux parmi 10 000 que j'ai trouvé, une sorte de capitaliste transcendant, invulnérable, despotique et tout-puissant, au caprice duquel tout est soumis et à qui nul ne peut échapper. Divinité tout entière, enivrée d'elle-même, tout entière à se célébrer elle-même. Voilà tout au moins l'image qui est la sienne du Dieu de l'Ancien Testament. Et il n'a pas tort, il est cela. Je ne dis pas qu'il n'est que cela. Deuxièmement, à propos du Dieu innocent, eh bien Zendel, comme Claudel, le poète, l'écrivain, que vous connaissez, comme Claudel, lors de sa fameuse illumination de Noël, en décembre 86, ça se passait à Notre-Dame, eh bien, Maurice Zendel reçut aussi la révélation de l'absolue et éternelle innocence de Dieu. Le cri de cette innocence, Zendel l'entend qui traverse toute la Bible, depuis la scène du premier jardin, celui du paradis, jusqu'à la scène du dernier jardin, celui de l'agonie. Déjà, la scène du paradis, nous dit Zendel, innocente clairement Dieu des maux qui nous accablent. Mais c'est à Gethsémani que le vrai visage de Dieu se dévoile totalement, et ce visage est celui d'une innocente victime. Or, non seulement Dieu est totalement innocent du mal, mais encore, mais aussi, mais surtout, insiste Zendel, il en est la première et plus immédiate victime. Et ça, c'est inouï, vous verrez les déductions que l'on peut faire à partir de là, et combien ça correspond à un vécu très, très concret. C'est là un thème fondamental, cette innocence de la théologie zendelienne. Zendel le dit textuellement. Dostoïevski, Bielinski, Camus, etc., pour ne citer que, sont 1000 fois légitimés de préférer nier Dieu plutôt que de le penser ne serait-ce qu'un instant complice de la souffrance injustifiable d'un seul enfant. Vous entendez bien ce qui est dit ici. Pour Zendel, les gens, les penseurs qui ont rejeté ce Dieu-là sont plus chrétiens que ceux qui l'acceptent. Ces athées, dit-il, sont plus chrétiens que vous si vous vous acceptez, effectivement, ce Dieu qui se satisfait de la souffrance des hommes, pour lequel, finalement, ça n'a aucune influence sur lui, comme on le verra par la suite. Dans l'innocent qui pleure et qui hurle... Attendez, pardon. Une phrase de Zendel que j'allais omettre, et qui est importante. Il écrit sur ce sujet. Alors, j'ai bien sûr toutes les références exactes, des citations, je ne vais pas vous donner à chaque fois, mais si vous les voulez, vous les aurez. Plus on dira l'horreur du mal fait aux innocents, plus on affirmera que Dieu est en eux, avec eux, qui les martyrent au-dedans d'eux-mêmes. Dans l'innocent qui pleure et hurle, c'est Dieu qui pleure et hurle. C'est le même cri, c'est le même. C'est inouï. C'est ce qui est dit là est absolument inouï. Affirmation abyssale, propre à Zendel, et en qui seul se trouve la vraie réponse, à mon sens tout au moins, aux questions à la fois sincères et perfides, qui se pose toujours, mais où était donc Dieu lors de la Shoah, etc. Et Auschwitz, où était Dieu? Que faire de Dieu après Auschwitz? Mais la réponse, elle est là. Et aujourd'hui, Hiroshima, Nagasaki, où était Dieu, effectivement, quand on larguait les bombes? Mais il était dans ceux qui étaient écrasés, il était dans ceux qui hurlaient, dans ceux qui souffraient. Il était présent dans toutes les victimes. Il était là, intensément là. Voilà. Voilà la réponse. Voilà la seule réponse acceptable. Et elle est inouïe. Quel dommage que Zendel soit mort, que Camus soit mort avant que Zendel ait pu lui expliquer tout cela, parce que c'était au cœur effectivement d'une interrogation de Camus et Zendel n'a pas eu le temps effectivement de pouvoir lui expliquer ceci. Troisième trait, vous le devinez, le Dieu de Zendel, puisqu'il souffre dans l'homme, est un Dieu souffrant. Le Dieu zendelien souffre le martyr, non seulement en raison du mal qui règne sur la terre, mais aussi du fait du manque d'amour qui est en définitive l'ultime cause du mal. Le vieux maître suisse écrit ceci qui est extraordinaire. Et c'est ça l'enfer chrétien. Un Dieu crucifié en nous, si nous refusons de l'aimer. Éternellement crucifié en nous, si nous refusons éternellement de l'aimer. Alors le jugement, ce n'est plus le jugement de l'homme par Dieu, mais c'est le jugement de Dieu par l'homme. Voilà l'important. Vous voyez le retournement. Les Zendel, c'est vraiment un spécialiste de ce type de retournement, mais qui parle. Ce n'est pas du n'importe quoi. Il ne s'agit donc plus de trembler pour notre salut, mais de trembler pour la crucifixion de Dieu. Nous ne risquons rien du côté de Dieu. C'est lui qui risque tout de notre côté. Car nous pouvons nous fermer, nous pouvons nous refuser, nous pouvons nous distraire, nous pouvons nous absenter, et il est sans défense contre nous. Et c'est pourquoi le chrétien est déchargé du souci de son salut. Il ne s'agit pas de se sauver, mais de sauver Dieu en nous. Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour, il ne peut qu'aimer, et quand l'amour n'est pas aimé, il meurt. Et c'est ce que Dieu fait sur la croix. Le Dieu zendélien, donc, on va y revenir, contrairement à celui de saint Thomas, est un Dieu éminemment passible, un Dieu qui souffre. Il n'est pas un Dieu impassible, mais nous allons revenir là-dessus. Alors, bien sûr, le Dieu de Zendel est un Dieu aimant, mais le Dieu chrétien est un Dieu aimant. Là. On nous parle d'amour tous les jours à l'Église, mais il y a des choses qui sont quand même un petit peu plus précises que ça. La citation précédente dit déjà ce qu'il convient de penser de la prétendue toute-puissance de Dieu. En effet, d'après Zendel, comme l'affirme la première lettre de Jean, donc, Dieu est amour, entendons, Dieu n'est qu'amour, mais Zendel saura tirer toutes les conséquences de cette définition immense. Il écrit ainsi à ce propos. Dieu, justement, est amour, rien qu'amour. Sa toute-puissance est de l'ordre de l'amour, suivez bien, et elle devient toute impuissance lorsqu'elle ne rencontre pas l'amour. C'est-à-dire que cette toute-puissance est en fait une immense faiblesse. Voilà, c'est la toute-puissance de l'amour qui lui ne peut rien s'il n'est pas accepté librement, qui lui ne peut rien s'il n'est pas accueilli. Tel est le Dieu de Maurice Zendel, qui en raison de son respect infini de la liberté humaine, a délibérément choisi de ne pouvoir agir sur terre que par l'intermédiaire des hommes qui l'accueillent. Le Dieu de Zendel ne peut intervenir ici-bas qu'à travers l'homme, qu'à travers vous-même. Autrement, il est incapable d'agir ici-bas. Il a fait le sacrifice de sa toute-puissance qui lui permettrait, effectivement, d'agir sans notre accueil, sans notre accord ici-bas. Tel est le Dieu, donc, de Zendel, qui a choisi de ne pouvoir s'exprimer que là où il est aimé et par le truchement de cet amour même, amour qui toujours conduit les hommes à lutter contre le mal et à mieux s'aimer les uns les autres. Tel est le Dieu du prédicateur itinérant qui, à l'instar de celui de l'Évangile et des Pères, s'incarne non pas pour sa propre gloire, mais par pur amour pour l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'incarnait par pur amour pour l'homme? Ce qui est dire très exactement ceci, propos sur lequel Zendel revient souvent. Dieu s'est incarné pour que l'homme devienne par grâce celui que Dieu est par nature. Révélation suressentielle que la tradition originelle nous a transmise sous la forme de l'antique adage que Zendel cite si souvent et qui est véritablement passionnant. Et qui est le suivant. Moi, quand je l'ai découvert, je suis tombé complètement dénu. Je donne la traduction, on cite souvent la terme, mais ce n'est pas utile. L'adage qui date à peu près du IIe siècle de Saint-Irénée dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Ça m'a semblé absolument irrecevable au début. En fait, il faut voir ce qui se cache là derrière, et c'est fantastique. Voilà l'amour du Dieu de Zendel. Il se fait homme pour nous amener, effectivement, à participer de sa propre nature, de sa liberté et de l'amour qu'il est. À propos du Dieu pauvre, cinquième trait, la pauvreté de Dieu est comme sa toute impuissance. Elle résulte de sa nature. L'amour, en effet, lorsqu'il est parfait, nous dit Zendel, est un mystère de détachement, de renoncement, de désappropriation. L'amour parfait ne peut rien garder pour soi. Il donne tout jusqu'à donner à l'aimer l'être même de l'aimant. Dieu se donne sur la croix complètement. Lequel, ainsi, ne possède plus rien, pas même lui-même. Et tel est l'esprit dans lequel Zendel écrit « Dieu est Dieu parce qu'il n'a rien et ne peut rien avoir. Dieu est Dieu parce qu'il est incapable de rien dominer, parce qu'il ne peut que se donner. » Ce qu'il fait en s'incarnant pour se donner à nous et qu'ainsi, par participation, nous devenions lui. Un tel Dieu ne peut être que fragile, c'est-à-dire dépendant de l'homme. Dieu est fragile parce que l'amour est fragile. Et l'amour est ainsi parce qu'il ne peut, ni ne sait, ni ne veut rien imposer. Et là, nous approchons la notion de liberté chez Zendel, qui est une notion fondamentale et qui est indissociable de l'amour. Le propre de l'amour est de laisser absolument libre. L'amour est libre et il laisse libre. S'il y a un tant soit peu, la moindre once d'obligation d'imposition dans une relation d'amour, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus de l'amour vrai. L'amour laisse libre et il rend libre. Si Dieu a créé l'univers et l'homme en état d'inachèvement, c'est afin de laisser l'homme libre, justement, de se construire et de construire aussi l'univers exactement comme il l'entend, et non pas comme lui, Dieu, l'entend. Et c'est nous qui nous construisons, c'est nous qui construisons le monde. Dieu n'y est pour rien. Ou il a voulu n'y être pour rien. Il n'y est pas pour rien, bien sûr, puisque la création originelle, il y était, mais maintenant, il nous passe aussi la main. Vous voyez la responsabilité. Nous sommes co-créateurs, donc, de nous-mêmes et du monde. Donc, Dieu a créé l'homme en état d'inachèvement, ceci afin que le résultat ultime de son œuvre à l'homme soit à sa propre louange et non pas à celle d'un autre. Mais un semblable amour qui exige une semblable liberté n'est certainement pas pour Dieu sans danger, puisqu'il lui demande aussi de ne jamais se manifester ici-bas autrement qu'à travers l'homme, donc jamais sans l'assentiment et la participation de ce dernier. Puisque Dieu laisse l'homme libre de l'accepter ou de le refuser. Il le laisse libre d'accepter que lui, Dieu, se manifeste ici, ici-bas, à travers nous, et à travers l'amour donc que nous éprouvons et que nous mettons en œuvre ou pas. Zendel écrit à ce propos, mettant une nouvelle fois à nu la toute dépendance de Dieu à l'égard de l'homme, dépendance si souvent entreaperçue par les grands mystiques, mais que nous avons tant de mal à réaliser. Voici ce que Zendel dit sur ce sujet. Dieu est aussi fragile qu'il est précieux. Il ne peut apparaître uniquement que si nous le laissons transparaître. Il ne peut apparaître que si nous le laissons transparaître. Alors, pas transparaître dans les arbres ou dans la table ou n'importe où, transparaître en nous. Il disait encore, il n'y a d'autre manière pour Dieu de se manifester, entendons ici-bas, il n'y a d'autre manière pour Dieu de se manifester que par cette transfiguration de la vie humaine qui en fait une transparence à Dieu. C'est la même idée. Il s'agit de devenir transparent à Dieu. Or donc, l'homme est parfaitement libre de refuser catégoriquement cette transfiguration, et ce n'est certainement pas trop s'avancer que de dire qu'il ne s'en prive guère. Vous me l'accorderez. Et de nos jours, sans doute, particulièrement. Et j'en arrive au septième trait, à l'issue duquel nous pourrons passer, mais si vous voulez faire une, puisqu'il fait peut-être un peu chaud, si vous voulez qu'on fasse une minute de pause, je ne sais pas, on le fera après, entre la théologie et l'anthropologie. À propos du Dieu que j'ai appelé constatable tout à l'heure, dans l'ouvrage « Pour toi qui suis-je », Zendel introduit au cœur du sujet en ces termes, et là c'est quelque chose de très important. Parlons-nous d'un Dieu préfabriqué, d'un Dieu contenu dans des mots, ou bien d'un Dieu que l'on expérimente, d'un Dieu que l'on vit, d'un Dieu que l'on découvre, d'un Dieu qui dépend de nous. Ah, voilà la bonne question. Et Zendel, lui, va toujours directement dans le tas, il fonce et il secoue. Parle-t-on de l'un ou de l'autre? Eh bien, comprenons bien le procès qui est intenté ici. Quoiqu'ayant profondément souffert de sa formation, comme je le disais tout à l'heure, chez les Dominicains de Fribourg, où il a fait donc ses études au grand séminaire, Zendel fut thomiste pendant de longues années. Aussi bien a-t-il travaillé à fond toute la somme théologique de saint Thomas qu'il connaissait parfaitement. C'est lui-même qui le dit, il ne sait pas le genre à se vanter, il le souligne comme ça en passant. Et aussi Zendel connaissait bien sûr à fond le Dieu que la somme théologique propose aux chrétiens. C'est-à-dire un Dieu, et je vais reprendre les termes exacts de saint Thomas, un Dieu qui est prioritairement et avant tout la cause première, l'être absolument nécessaire, la cause non causée, le premier moteur immobile, etc. C'est-à-dire un Dieu en forme de théorème, un Dieu dont l'existence ne se constate pas, ne s'éprouve pas, ne se rencontre pas, mais il s'agit d'un Dieu qui, au lieu de se donner dans l'expérience intuitive et immédiate, il s'agit d'un Dieu qui, au contraire, se démontre, se prouve par une démarche intellectuelle, à l'aide d'arguments rationnels qui vont ou qui remontent, comme dit Thomas, des effets à la cause. Or donc, ce Dieu cause première, comme le montre le vieux maître suisse, ne peut être qu'impassible. Il ne dépend de rien, parce que s'il dépendait de quelque chose, il ne serait plus cause première, il deviendrait cause seconde. Donc, il ne peut pas dépendre de quoi que ce soit. Il ne peut notamment pas aimer les hommes, car alors, puisque tel est l'amour véritable, il dépendrait des hommes, et il dépendrait donc de chacun d'entre nous. Donc, il y a un choix à faire. Ou c'est ce Dieu théorique, cause première, première cause, etc. Ou alors, c'est un Dieu que vous allez expérimenter en vous-même, et qui est quand même un Dieu d'une autre dimension. Ainsi, vous l'avez compris, le Dieu du thomisme, donc de saint Thomas, diffère tant de celui rencontré par Maurice Zindel que ce dernier, je l'ai trouvé dans des confidences qui ne sont pas publiées mais qui sont authentiques, ce dernier s'en détacha définitivement lors de son premier exil à Paris, donc alors qu'il était à la rue Monsieur, disons à la fin des années 1920, donc des années 1927-29, époque à laquelle il y a énormément de temps pour lire et époque donc où il se détache de plus en plus du Dieu de saint Thomas. Le Dieu de Zindel, dont celui-ci suit la trace pas à pas dans l'Évangile, loin d'être un Dieu conceptuel ou notionnel, celui donc du thomisme, est un Dieu alors expérientiel et existentiel, je dirais. À savoir un Dieu dont l'existence ne se prouve pas, mais s'éprouve, ne se déduit pas, mais se constate. Un Dieu qui ne se démontre pas, mais dira Zindel, un Dieu qui se rencontre. Et il ne se paye pas de mots, et il ne nous paye pas de mots quand il dit ça. C'est ça qu'il y a de fort. Mais seulement, comme il dit si souvent, ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est nous qui ne sommes pas présents. Ou c'est nous qui ne savons pas, effectivement, nous ouvrir à cette présence. Mais ça ouvre la porte quand même, hein. On peut toujours apprendre, bien sûr. En mai 1973, donc à la fin de sa vie, après sa prédication de carême au Vatican, donc après la prédication de 72, lors d'une conférence donnée à Boisserf, le vieux maître suisse, à propos du Dieu premier moteur, aura ce raccourci fulgurant. Et se dire, si ça disait bien sa pensée, ce qu'on a autrefois, il dira, si Dieu est cela, c'est l'ennemi public numéro un. Il fallait quand même pouvoir le dire. Il fallait pouvoir le dire. Hein. Et donc, il est à la fin de sa vie. C'est un peu la synthèse de sa pensée, de son expérience spirituelle qu'il nous livre là. Bon, je ne vais pas développer ça, mais sachez que saint Thomas, à la fin de sa vie, a fait une expérience d'une intensité extraordinaire, à l'issue de laquelle il a posé son porte-plume, il n'a plus rien écrit. Il a dit que tout ce qu'il avait écrit auparavant n'avait pas plus d'importance que de la paille. Et dans l'Ancien Testament, il y a des paroles que l'on connaît sur la paille, hein, ils conçoivent du foin, ils enfantent de la paille, dit Isaïe. C'est-à-dire que saint Thomas prend conscience qu'en fait, que toute son œuvre extraordinaire, sur le plan conceptuel, sur le plan intellectuel, c'est vraiment une somme, et c'est une mer dans laquelle on boira encore pendant des siècles, ça c'est sûr, sur le plan de l'intelligence. Mais quant au rapport à la réalité que saint Thomas, malgré tout, voulait peindre, sans doute que cette œuvre ne dit rien d'intéressant, puisque saint Thomas lui-même a dit que ça ne valait pas plus que de la paille. Et c'est ce que Zindel nous dit, si Dieu est ça, c'est l'ennemi public numéro un. Alors donc, je veux quand même vous parler, non plus de Dieu vu par Zindel, ce qui est déjà passionnant, mais de l'homme vu par Zindel. Alors, nous venons de voir, il est vrai, très rapidement, quel était le Dieu de Zindel. Voyons maintenant comment lui-même concevait, percevait l'homme et la condition humaine. Et bien sûr, ces deux conceptions sont étroitement liées, bien évidemment. Quant à l'homme, pour Zindel, la question première, la question antérieure à tout autre, et là aussi, il faut la poser, parce qu'il est tellement évident, et moi j'ai fait des sciences humaines pendant de nombreuses années à l'université, j'ai enseigné à l'université, pour ces gens-là, c'est pour les scientifiques, il est évident que l'homme existe, il parle de l'homme, il croit étudier l'homme. Et bien, quelle est la question de Zindel? Pose, lui, et reprend vraiment les choses à rebrousse-poil, c'est sa spécialité, l'homme existe-t-il? D'abord, il met ça en question. L'homme existe-t-il? Voilà la question. Eh bien, quelle réponse l'abbé Zindel apportera-t-il à cette question? C'est ce que je voudrais que nous comprenions maintenant et vous faire découvrir. Le propos est assez dur, vous allez le voir, et pour certains, il est totalement irrecevable. il y a des gens qui ne peuvent pas entendre parler de Maurice Sandel, notamment en raison de sa compréhension de l'homme. Dans l'ouvrage « À l'écoute du silence », vous pouvez lire ceci. On admet que l'homme existe, que ses droits sont indiscutables, que sa dignité est inviolable, qu'il a atteint sa majorité et qu'il est capable de prendre lui-même toutes ses responsabilités. Bon, il faut lire le discours de Sandel sur les droits de l'homme. Ça vaut son pesant d'or, enfin, je ne l'ai pas pris pour aujourd'hui. Donc on admet que l'homme existe et qu'il a tous les droits, en fait. En fait, dit Sandel, en fait, nous sommes dans le siècle des guerres ininterrompues, du génocide, de la torture, de la déportation, des dictatures, du racisme et du lavage de cerveau. Et nous oscillons entre un univers concentrationnaire et un monde complètement déboussolé et dissolu. Et c'est écrit en 1970. Nous sommes en 2010 ou 2012. Qu'écrirait Sandel aujourd'hui? Le problème donc fondamental est donc, dit Sandel, l'homme existe-t-il? Il naît par sa naissance charnelle qui lui est imposée. C'est vrai que nous n'avons pas demandé à venir. Hein. Ça nous a été imposé, notre première naissance. Retenez bien, c'est fondamental. Il naît par sa naissance charnelle qui lui est imposée. Il n'est qu'une miette de l'univers, qu'un produit de l'évolution cosmique. Le monde physique et lui sont d'un seul tenant. La jungle de la forêt vierge se prolonge dans la jungle de son inconscient. Son moi est la résultante de tous les déterminismes internes et externes qu'il subit, de toutes les pressions du milieu, de toutes les sédimentations de son histoire infantile. Son moi, en un mot, est sa prison la plus rigoureusement cadenassée. Ses options sont passionnelles sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Voilà le tableau qui brosse à grands traits déjà. La seule question qui reste ouverte est donc, attendu que l'homme n'existe pas naturellement, n'existe pas tout fait en vertu de sa naissance charnelle, attendu qu'il subit au plus haut degré le poids de ses préfabrications, attendu que, avec tous les vivants, il ne peut subsister qu'à coup d'emprunt, en pillant tout l'univers pour se nourrir et se protéger sans exclure le meurtre de ses semblables, eh bien, dans ces conditions, la seule question qui reste ouverte est « L'homme peut-il exister? Peut-il émerger de cette jungle interne et externe? Peut-il se libérer de son moi instinctif? Peut-il cesser de se subir? Peut-il devenir source et origine d'un moi-valeur qui fonderait sa dignité en faisant de lui un bien universel? En un mot, l'homme peut-il se faire homme ?» Ça manque pas de souffle quand même, ce que dit Sandel. L'anthropologie, vous le voyez, de Sandel est donc particulièrement exigeante et son constat de fond particulièrement brutal. Sandel ne nous dit, mais ça les sciences humaines sont aussi de même pour nous le dire, mais pour d'autres raisons, l'homme n'existe pas naturellement en tant que tel. Nous naissons à notre humanité à travers l'autre. Bon, vous connaissez tous l'histoire, je ne vais pas le développer ici, des puériféries, des enfants sauvages, des enfants loups. Un enfant qui ne rencontre pas d'être humain ne devient pas humain. Bon, ça, les sciences humaines le reconnaissent. Hein. Naturellement, hein, l'homme n'est pas accompli, n'est pas achevé. Il a besoin de l'autre. Contrairement au petit animal qui a un bagage instinctif qui lui permet, même en l'absence de contact avec ses semblables, de développer son animalité. Peut-être imparfaitement, mais enfin quand même, hein, de façon identifiable. Ça, pour l'homme, pas du tout. Donc, Sandel nous dit, et là il retrouve donc les scientifiques, « Attendu que l'homme n'existe pas naturellement en tant que tel, et il le prouve, et il n'y a là aucun doute. » Et voici une autre manière zandelienne de dire la même chose que ce qu'il vient de dire ici. « Lorsque nous disons « je » et « moi », il faut admettre ça, hein, si vous l'avez, il y a des gens qui réagissent violemment quand ils entendent ça. « Lorsque nous disons « je » et « moi », nous recourons à un langage personnel alors qu'il n'y a encore personne. Hein » Je ne développe pas plus, on en reparlera tout à l'heure. Sandel dit encore, l'humanité de notre temps est un musée de cire. Nous voyons des groupes qui font des gestes, occupent des situations, tiennent des rôles, mais il n'y a personne. Le monde est comme un grand cimetière, la maison des morts. Il n'y a personne, et c'est là la tragédie de notre époque. Les figurines que nous voyons nous intéressent jusqu'au moment où nous voyons qu'elles ne sont pas vivantes. Leurs gestes, leurs attitudes sont immobiles. Il n'y a personne. Le constat est douloureux, il est tragique. Sandel souffre énormément. Les hommes tels que nous les entendons d'ordinaire, voici comment Zendel les voit. Ne tenant rien de soi, ils n'ont d'humanité que l'apparence. Dans ce registre, qui pour certains est irrecevable, ce que je disais, Zendel a pu écrire aussi. Alors j'ai choisi les passages les plus durs, mais ça, c'est bien que je vous secoue aussi. La plupart des vies, malheureusement, sont des cadavres d'humanité, remorqués par les énergies physiques données à la naissance. C'est-à-dire que la plupart des hommes sont portés par leur biologie au lieu de la porter. Ils meurent avant de vivre, et c'est précisément cela, la vraie mort. Il faut pouvoir accepter quelqu'un qui nous dit « mais vous êtes mort ». Certes, Zendel aime à secouer, à provoquer, voire peut-être même à choquer. Et on peut comprendre que différents diocèses n'aient su quoi en faire, et notamment les diocèses suisses. Et je comprendrai que certains d'entre vous se sentent offusqués. Car que dit-il ? Rien d'autre que ceci qui est énorme. À savoir que notre première naissance, celle par laquelle nous sommes passés donc entre les cuisses de notre mère, notre naissance charnelle, naturelle, biologique, eh bien, cette naissance n'a pas mis au monde un être par essence fini, un homme ou une femme véritable. Cette naissance a mis au monde un être essentiellement inachevé, un être qui a donc seulement l'apparence de l'humanité. Pire même, dit Zendel, un être qui, s'il en reste à cette seule apparence, se destine à une mort totale. Un être qui, au point de vue de l'essentiel, si sur le plan de l'essentiel et s'il en reste là, doit être considéré comme mort. Un être, dit Zendel, qui, s'il s'ensevelit dans sa biologie, dans sa vie naturelle et sociale, celle que nous avons reçue effectivement de notre mère, que ce soit physique ou psychique, qui est la société, un être, s'il en reste là, est déjà mort et dont l'existence sera comme si elle n'avait pas été. Cependant, ne vous y trompez pas. L'anthropologie de Zendel, comme sa théologie d'ailleurs, est extrêmement sûre. Je veux dire ceci. Elle n'est autre, en effet, très exactement que celle de l'Évangile, celle-là même de Jésus-Christ. Celle de Jésus, disant par exemple dans l'Évangile de Jean, « L'Esprit donne vie, la chair ne sert de rien. » C'est ce que va nous redire Zendel. La naissance charnelle ne rime à rien. Sur le plan humain, ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Mais le Christ dit la même chose, la chair ne sert de rien. Que Zendel nous dit la même chose, que Jésus expliquant à Nicodème, personne à moins de naître de nouveau, à moins de sortir de là, vous voyez le terme de la naissance, la nouvelle naissance arrive, à moins de naître de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, à moins de naître de nouveau. Cette anthropologie de Zendel est celle de Jésus rétorquant à son disciple dans l'évangile de Luc, mais vous le savez, l'exclamation fameuse, il dit à son disciple qui veut aller enterrer son père, qu'est-ce qu'il lui dit ? Laisse les morts enterrer les morts ! C'est quand même fou, quand vous y réfléchissez. C'est-à-dire que les vivants dont il est question ici sont des morts, au sens fort. Ou alors dans l'Apocalypse, l'ange qui n'est autre que Jésus, qu'est-ce qu'il dit à l'église de Sardes ? Je sais tes œuvres, tu passes pour vivre et tu es morte. Vous l'avez compris, selon Zendel, conformément à l'anthropologie du Nouveau Testament et contrairement à ce que disent nos cartes d'identité et l'université, l'être humain, pour répondre à la vocation inscrite dans sa nature et devenir ainsi un homme en plénitude, un homme véritable, eh bien cet homme doit passer par une transformation, une sorte de métamorphose intérieure. Métamorphose qui est appelée par la tradition chrétienne du joli nom de métanoïa, qui veut dire qu'il faut transformer notre connaissance, transformer notre façon de voir et de concevoir. Effectivement, il faut changer absolument tout. Et cette transformation est équivalente à une nouvelle naissance ou une seconde naissance. Événement à la faveur duquel la chenille, je dirais, jusqu'ici seulement bénéficiaire d'une vie partielle, d'une vie relative et momentanée, eh bien, va boire maintenant à la source, si elle accepte cette transformation, d'une vie qui n'est plus partielle mais totale, qui n'est plus relative mais absolue, qui n'est plus momentanée éternelle, mais éternelle. Et je lui ajouterai, qui n'est plus imposée mais qui est libre. Saint Paul, vous le savez, désignait la chenille humaine, donc cet être préfabriqué qui en reste finalement au conditionnement qu'il a hérité dans son berceau et à l'école, cet homme chenille, eh bien, saint Paul le désignait par des expressions telles que « homme psychique », et les mots ont un sens profond, ils sont là, au quart de poil près, si je puis dire, hein, quand on gratte la dernière, on tombe sur les abîmes de sens. Il s'agit de l'homme psychique ou de l'homme animal. C'est la même signification, psychique et animal. Ça veut dire qu'il est animé par un psychisme ou par une âme. Donc, l'homme psychique, l'homme ancien, l'homme extérieur, le fils de la servante, etc. Voilà comment saint Paul désigne la chenille. Et le papillon, lui, l'homme qui s'est libéré, qui a accepté de renaître, qui a accepté de sortir de cet état, qui s'est senti appelé à en sortir, cet homme donc en qui Dieu parle, en qui Dieu est sujet, parce que dès que vous ressentez ce désir de ne pas en rester, Zendel vous le dit, la spiritualité commence si vous sentez vivre en vous une lassitude complète et un désir de devenir autre chose que ce que vous avez fait jusqu'ici de vous-même. Si vous ressentez ça viscéralement, ça y est, vous êtes sur le bon chemin. Alors donc, l'homme papillon, lui, Paul le définira ou le présentera comme l'homme spirituel, l'homme nouveau, l'homme intérieur, le fils de la femme libre, etc. Eh bien, le vocabulaire de Zendel est aussi très riche sur ce sujet. Alors, ceux qui connaissent Zendel vont reconnaître les expressions. Le premier homme, celui dont j'ai campé le tableau tout à l'heure, et qui nous rend un peu pessimiste, il l'appelle comment ? L'homme biologique, c'est-à-dire qui reste essentiellement, qui s'incarne dans sa biologie, qui ne veut entendre parler que de la vie biologique. Le reste, il s'en fout. Après, ça, c'est autre chose. Hein. L'homme biologique, l'homme objet, l'homme préfabriqué, l'homme robot, l'homme quelque chose, l'homme pesanteur. Je n'ai pas recensé toutes les expressions de Zendel, elles sont extraordinaires. Chacune aussi dit quelque chose de précis. Alors il oppose cet homme à celui qui va effectivement sortir ou qui va peu à peu se construire à travers cette démarche infinie qui est celle de la nouvelle naissance, qui est lui l'homme sujet, l'homme libre, l'homme créateur, l'homme source, l'homme véritable, l'homme valeur, l'homme universel, etc. Alors le vocabulaire change, mais soyez-en assurés, la signification du clivage, donc de la distinction, qui est aussi la signification de la nouvelle naissance, hein, cette signification demeure la même. Et cette signification est fondamentale infiniment. Et c'est pour ça que je vous propose donc de nous arrêter un petit moment avant de terminer sur le thème de la nouvelle naissance, donc dans l'anthropologie de Zendel.
La pensée de Maurice Zendel sur l'homme véritable et la nouvelle naissance, vous venez de suivre une conférence de Michel Fromager, anthropologue et maître de conférences à l'Université de Caen, conférence enregistrée le 22 septembre 2012 à l'abbaye de Belloc.